الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه الليلة ليلة 29 من شهر جماد الأولى عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس 33 والدرس الأخير من شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 3 février 2019 et nous nous réunissons pour le 33e cours de l'étude de l'écrit intitulé Al-Ubudiyah, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et toujours dans la parole du Cheikh rahimahullah ta'ala, il s'agit de répondre à ceux parmi les partisans du soufisme qui ont innové des manières d'évoquer Allah et le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant qu'il existe trois manières. La première est la manière destinée aux gens de la masse lorsque vous dites « La ilaha illallah » et les autres formules. La seconde est celle des gens de l'élite. Il s'agit d'évoquer simplement en citant le nom Allah, Allah, ou des noms, sans rien demander ni rien ajouter, sans faire de phrases comprises ou complètes. Et la troisième est la plus grande. C'est pour les plus grands parmi les élites, c'est de se contenter du pronom personnel « hu hu ». Pour eux, cela rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur, rahimahullah, a répondu à ces ambiguïtés en montrant qu'on ne retrouve aucunement, ni dans la sunna, ni dans le Coran, des textes encourageant le musulman à invoquer Allah ou l'évoquer de cette façon. Au contraire, ce que nous retrouvons à chaque fois, ce sont des phrases complètes, des phrases sensées, et non pas seulement un nom sans l'accompagner d'une demande, d'une formule de glorification et tout autre que cela. Et dans ce contexte, l'auteur rahimahullah a dit وَكَذَلِكَ مَا شُرِعَ لِلْمُسْلِمِينَ فِي صَلَاتِهِمْ وَأَذَانِهِمْ وَحَجِّهِمْ وَأَعْيَادِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّمَا هُوَ بِالْجُمْلَةِ التَّامَّةِ كَقَوْلِ الْمُؤَذِّنِ الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقول المصلي الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد التحيات لله وقول الملبي لبيك اللهم لبيك وأمثال ذلك فجميع ما شرعه الله من الذكر إنما هو كلام تام لا اسم مفرد ولا لا مظهر ولا مضمر. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit aux musulmans dans différentes adorations, que ce soit leur prière, l'appel à la prière, le pèlerinage, l'évocation d'Allah, les différents jours de fête. À chaque fois, l'on retrouve des phrases complètes, jumalun tam, des phrases complètes, sensées, contenant des informations, contenant des demandes. C'est cela que l'on retrouve dans toutes les formules où l'on évoque le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comme la parole répétée par al-mu'adhdhin, qui appelle à la prière. Que dit-il? Allahu akbar, Allahu akbar. Il ne dit pas Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Il ne dit pas Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Il ne dit pas encore une fois Allah. À chaque fois, ce sont des phrases complètes. Et remarquez ces trois phrases où l'on retrouve le nom d'Allah. La première, Allahu Akbar, le takbir. On proclame la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que rien n'est plus grand que lui. La seconde, at-tahlil, l'unicité d'Allah. La troisième, l'attestation que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Mais si l'on se contentait uniquement de citer le nom d'Allah, comment différencier ce qui est voulu. Alors que si l'on cite des phrases complètes, on sait que dans la première phrase, il s'agit de reconnaître la grandeur d'Allah, dans la seconde, l'unicité, et dans la troisième, reconnaître que le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, est son messager. Donc, on ne trouvera jamais d'invocation sans phrase complète. On ne trouvera jamais d'invocation uniquement avec un nom. Allah, Ar-Rahman, Al-Hayy, Al-Qayyum, cela n'existe pas. De même que les invocations ou les paroles prononcées par le fidèle qui accomplit sa prière. Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-A'la, et toutes les autres paroles, comme celles prononcées par le pèlerin en état de sacralisation. Que dit-il? Il prononce la talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, me voici Allah répondant à ton appel. Me voici répondant à ton appel. Ce sont des phrases sensées, des phrases complètes. Alaykoum salam. L'on constate donc que dans les meilleurs moments d'adoration, que sont la prière, le pèlerinage et d'autres encore, on retrouve à chaque fois des phrases complètes et pas seulement le nom d'Allah. Azza wa Jal. Tout ce qu'a prescrit Allah comme parole de dhikr, on n'y retrouve que des phrases complètes, jamais un nom ou un pronom personnel. On ne dit pas « hu, hu, hu » quand on va au pèlerinage. On ne dit pas « Allah, Allah » quand on accomplit la prière. On dit « Allah Akbar » et pour l'autre on dit « La baik, Allahumma la baik ». Et je me souviens avoir vu à Mecca, pendant l'accomplissement des rites, un groupe de personnes qui couraient et ils criaient tous « Hu, 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 hu ». Wallahu musta'an. Ils viennent jusqu'à la Mecque pour faire cela. Wallahu musta'an. L'auteur rahimahullah nous dit ensuite: wa hadha huwa alladhi yusamma fi al-lughati kalima. Ka qawli kalimatan khafifatan 'ala al-lisan, thaqilatan fi al-mizan, habibatan ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-'azim. Wa qawli afdalu kalimatin qalaha ash-sha'iru kalimatu labidin. Ala kullu shay'in ma khala Allah batil. L'auteur rahimahullah nous dit: c'est ce qui est voulu par le terme kalima qui littéralement signifie un mot. Il est vrai que dans des hadiths on retrouve le terme kalima. Cependant, ce terme qui signifie un mot est utilisé pour désigner une phrase en réalité. Prenez l'exemple de la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui va voir son oncle à l'agonie et lui dit: ya am, qul la ilaha illallah. Ô oncle, dis la ilaha illallah. Kalimatan uhajju laka biha indallah. C'est un mot. C'est une traduction là, littérale. C'est un mot par lequel j'argumenterai en ta faveur devant Allah. Il l'invite à l'islam. Donc on voit bien que il s'agit d'une phrase, n'est-ce pas? Ce qui est donc voulu par le terme kalima, un mot, c'est une phrase. Et même dans la langue avec laquelle je vous parle, lorsque je dis j'ai un mot à te dire, tu comprends que il s'agit d'un sujet que je vais aborder avec toi en réalité et qui ne contiendra pas uniquement un mot, n'est-ce pas? Donc il n'y a aucune preuve pour cet agissement. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: deux mots sont légers sur la langue, lourds sur la balance, très aimés du tout miséricordieux. Quels sont ces deux mots? Subhanallah wa bihamdi, une phrase complète. Et le deuxième mot, subhanallah al-azim. Ici encore une fois une phrase complète. Également le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Le meilleur mot prononcé par un poète fut celui de l'Abid. L'Abid, c'est un poète de la période anté-islamique. Et vous savez que la langue arabe est une langue riche qui est notamment utilisée pour la poésie. Et l'Abid, qui était un poète de la période anté-islamique, a rédigé quelques vers de poésie qui contenaient des sens corrects. dont certains qui ont été appréciés par le prophète alayhi salatu wassalam, parmi lesquels celui-là, Ala kullu shay'in ma khala Allah batilu. N'est-ce pas que tout autre qu'Allah est nul? Et le prophète alayhi salatu wassalam a décrit cela comme un mot, en disant afdalu kalima, le meilleur mot prononcé par un poète. Et qu'est-ce qu'on retrouve? Pas seulement un mot, mais une phrase complète. Également, وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ dans Sourate Al-Kahf. Allah subhanahu wa ta'ala, en blâmant les chrétiens qui ont dit qu'Allah azza wa jalla a un enfant, qu'a-t-il dit dans le sens du verset, ô combien est terrible le mot qui vient de sortir de leur bouche. Quel est ce mot? Le fait de dire qu'Allah a un enfant. Il ne s'agit pas que d'un mot. C'est une phrase. Donc par le terme kalima, traduit littéralement par mot, l'on entend en réalité une phrase. Al-Aya. Wa qawluhu wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. De même, le verset dans le sens rapproché, si je vous le traduis là littéralement, ça donnera le mot de ton Seigneur est accompli. Le mot de ton Seigneur est accompli avec véracité et justice. C'est pourquoi le traducteur ne peut pas se contenter que de la langue, car sinon il va traduire littéralement et alors il va avoir des défaillances dans le sens qui est voulu. Pour traduire les textes du Coran et de la Sunna, il faut connaître la langue arabe, la langue avec laquelle tu vas traduire et le sens des textes que tu vas traduire. Ici, ce qui est voulu, ce sont les paroles d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et pas simplement un mot. Même s'il apparaît que c'est un mot, ce qui est voulu, ce sont les paroles d'Allah qui sont toutes véridiques, c'est-à-dire dans les informations émanant d'Allah, azza wa jalla, et juste dans les prescriptions religieuses d'Allah, les devoirs et les interdits. C'est ce que veut dire ce verset. Le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « وَهُوَ كَلَامٌ لَا كَلِمَةٌ مُفْرَدَةٌ » C'est une parole, et pas uniquement un seul mot. L'auteur dit « وَأَمْثَلُ ذَلِكَ مِمَّا اسْتُعْمِلَ فِيهِ لَفْظُ الْكَلِمَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بَلْ وسائر كلام العرب فإنما يراد به الجملة التامة كما كانوا يستعملون الحرف في الاسم فيقولون هذا حرف غريب أي لفظ الاسم غريب. Donc là je vais vous lire certains passages, mais en réalité je vais me contenter de les lire car il va traiter de notions de grammaire arabe. Le fait de ne pas le savoir pour vous maintenant ne va pas vous nuire à la compréhension du but où il veut arriver. Et c'est ça qui compte pour vous. Parce que sinon, il faut rentrer dans toutes ces notions, expliquer, et je ne sais pas si tout le monde va comprendre. L'essentiel, c'est de retenir que ce qui est voulu à travers le terme « kalima », mot, c'est très souvent des phrases en réalité. C'est tout le temps même, que ce soit dans le Coran et la Sunna, et même dans la langue arabe. Lorsque dans le langage arabe, je te dis, li kalima, uridu an aqula halak, j'ai un mot à te dire, ton interlocuteur comprend qu'il s'agit d'un sujet que tu vas aborder avec lui. Et pas seulement un mot puis partir, n'est-ce pas? Et ça c'est clair, alhamdulillah. وقسم سيبويه الكلام إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى ليس باسم وفعل وكل من هذه الأقسام يسمى حرفا لكن خاصة الثالثة أنه حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل وسمى حروف الهجاء باسم الحرف وهي أسماء ولفظ الحرف يتناول هذه الأسماء وغيرها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد سأل الخليل أصحابه عن النطق بحرف الزاي من زيد فقالوا زاي، فقال جئتم بالاسم وإنما الحرف زاء. ثم إن النحاة اصطلحوا على أن هذا المسمى في اللغة بالحرف يسمى كلمة، وأن لفظ الحرف يخص لما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل كحروف الجر ونحوها. وأما ألفاظ حروف الهجاء فيعبر تارة بالحرف عن نفس الحرف من اللفظ، وتارة باسم ذلك الحرف. ولما غلب هذا الاصطلاح صار يتوهم من اعتاده أنه هكذا في لغة العرب، ومنهم من يجعل لفظ الكلمة في اللغة لفظا مشتركا بين الاسم مثلا وبين الجملة، ولا يعرف في صريح اللغة من لفظ الكلمة إلا الجملة التامة. Là, je n'ai fait que lire pour avoir lu toute la parole de l'auteur, rahimahullah, mais on n'entre pas dans ces notions de grammaire arabe. والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة. Voilà ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que en matière d'évocation d'Allah, ce qui est prescrit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de l'évoquer avec des phrases complètes. وهو المسمى بالكلام والواحد منه بالكلمة وهو الذي ينفع القلب. C'est cela qui est utile au cœur. عليكم السلام. Évoquer Allah Azza wa Jal avec des phrases complètes, en lui demandant des choses, en proclamant sa grandeur, c'est ça qui nourrit ton cœur. De dire Allah, Allah, Allah ou Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman en soi, sans l'accompagner d'autres mots, donnant ainsi à cette phrase un sens voulu qui va nourrir le cœur, ce n'est pas utile pour la personne. Par contre, dire Allahu Akbar, ou dire Subhanallahman, ou de dire Ya Rahman, Irhamni, toutes ces paroles sont des phrases complètes qui sont utiles pour le cœur et le nourrissent. وَيَحْصُلُ بِهِ الثَّوَابُ وَالْأَجْرُ والقرب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته. En prononçant ces paroles, non seulement le cœur est nourri, profite de l'utilité, mais aussi la personne gagne des récompenses chez Allah. Elle gagne la proximité avec Allah. Elle augmente dans sa connaissance d'Allah Azza wa Jal, en son amour et sa crainte. وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له. Quant au fait de se contenter d'évoquer Allah Azza wa Jal par le nom ou le pronom personnel, de dire Allah ou de dire Hu, cela n'a aucun fondement. Donc qui dit aucun fondement dit que c'est une innovation. لا أصل له أي لا دليل له. Cela n'a aucun fondement, n'a aucune preuve. فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين. Donc, si ça n'a aucun fondement, ça ne peut donc absolument pas faire partie de la manière d'évoquer Allah chez les élites. Les élites n'ont pas évoqué Allah de cette façon. بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات أحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد كما قد بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع. Le fait de se contenter d'évoquer par la simple mention du nom est en réalité un moyen menant à plusieurs sortes d'innovations, d'égarements et de fausses conceptions de la croyance. Notamment la croyance du panthéisme, Wahdatul Wujud, le fait de n'évoquer Allah Azza wa Jal qu'en disant Allah, 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 comme on retrouve dans le soufisme, on en arrive après à dire que tout ce qui existe est Allah. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est du kufr, c'est de la mécréance. Et une des causes ayant mené ces gens à ce résultat dramatique, c'est le fait de ne pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cette raison, l'auteur conclut en citant les deux grandes bases de la religion. Quand je dis conclut, il conclut son livre en citant les deux grandes bases de la religion. Il nous dit donc « وَجِمَعُ الدِّينِ أَصْلًا » et la religion tout entière est réunie derrière deux fondements. Deux fondements. Toute la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala repose sur ces deux fondements. Lorsque ces fondements sont respectés, les œuvres sont authentiques et donc acceptées bi-idhnillah ta'ala. Lorsque ces deux fondements ne le sont pas, ou l'un d'entre eux ne l'est pas, l'œuvre n'est pas acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, même si la personne fournissait tout ce qui est en sa capacité comme effort physique, financier, elle n'arrivera à rien du tout chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier, Allah na'abuda illallah. Le premier, de n'adorer qu'Allah seul. Le deuxième, wa la na'abudahu illa bima shara', et de ne l'adorer qu'à travers ce qu'il a prescrit. On adore Allah azza wa jal que comme lui l'a prescrit et légiféré. On n'adore pas Allah azza wa jal selon nos goûts, nos habitudes, nos coutumes, nos désirs, nos idées, nos pensées, nos sectes, nos mauvaises croyances, nos égarements, nos imams, nos prêcheurs, nous ceci, nous cela. On adore Allah tabaraka wa ta'ala selon ce qu'il nous demande de faire. Si tu comprends ça, tu as compris la base de ta religion que beaucoup de gens, jusqu'au moment où je vous parle, n'ont pas compris. C'est pourquoi lorsque tu discutes avec certaines personnes, les appelant à la sunna, il peut arriver à l'une d'entre elles de te répondre « Nos ancêtres ne nous ont jamais appris cela. Dans mon village, on ne m'a jamais dit ça. » En se basant sur le fait que puisque je n'ai jamais entendu ça dans mon village, ni dans ma famille, ou dans la personne que je prends pour modèle, alors je ne peux pas suivre. Imaginez-vous si la religion était basée sur cette conception des choses. Chacun en fonction de son village va avoir une religion. Et chacun va dire à l'autre, non, mon village ne m'a pas appris ça. Mon imam ne m'a pas dit de le faire de cette façon. Et lorsque l'on va aller tous ensemble accomplir le pèlerinage à la Mecque, les façons de l'accomplir vont être différentes et variées. Et chacun va dire, non, dans mon village, il m'a dit d'arriver à tel endroit, de faire telle action. L'autre va dire, oui, mais le mien m'a dit telle autre action. Et comment est-ce que l'on va s'en sortir? Ça serait alors le chaos et la confusion, l'anarchie totale. Est-ce que vous pensez qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qui est parfait par ses noms et attributs, à légiférer une religion contenant toutes ces contradictions? Revenez au Coran. Allah Azza wa Jalla a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Ne médite-t-il pas le Coran? وَلَوْ كَانَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Si le Coran émanait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé maintes contradictions. Donc, les contradictions ne viennent que chez les hommes, pas dans le livre d'Allah, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La religion a donc deux bases. De n'adorer qu'Allah et de ne l'adorer que d'après ce qu'il a prescrit. Yarhamouk Allah. La na'abuduhu bil bid'a', nous dit l'auteur. Nous ne l'adorons pas par les innovations. Kama qala ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Dans le sens rapproché du dernier verset de la sourate Al-Kahf que je vous avais encouragé et que je vous encourage encore et encore à mémoriser, il y a les preuves de ces deux conditions de validité des actions. Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens rapproché du verset: quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, c'est-à-dire celui qui souhaite rencontrer Allah Azza wa Jalla le jour dernier et le trouver pleinement satisfait de lui, voilà ce qu'il doit suivre comme chemin. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Qu'il fasse une bonne action. Et comme vous le savez, l'action ne peut être considérée comme bonne que si la personne suit dans cette action le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon, son action est vaine. Elle est rejetée d'Allah azza wa jal. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque fait une œuvre ne relevant pas de notre ordre, il sera rejeté. Vous voyez qu'on ne parle pas de l'intention. On n'a pas dit ici, sauf s'il a une bonne intention, sauf s'il dit aimer Allah, sauf s'il dit, mais ce n'est que du dhikr que je suis en train de faire, sauf s'il dit, nous ne faisons que lire le Coran en groupe, c'est quelque chose de bien. Sauf s'il dit, je ne fais qu'invoquer Allah dans cet endroit spécifiquement. Il n'y a pas ça dans la religion. Celui qui fait une œuvre qui ne vient pas de l'ordre d'Allah Azza wa Jal, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son œuvre est rejetée, peu importe qui il est, peu importe ce qu'il cherche, peu importe le nombre de personnes dans cette œuvre. Cette œuvre est rejetée. Lorsque tu transmets ce savoir à certaines personnes, elles te répondent, tu as donc le culot de dire que tous ces gens-là qui font cette action ne sont pas acceptés par Allah? Na'am, oui. Sans la moindre difficulté. Pourquoi? Parce que ça ne vient pas de moi. Ça vient du prophète alayhi salatu wassalam. Ce que tu fais, y a-t-il un verset et un hadith? Si la réponse est oui, je n'ai pas le droit de m'y opposer. Si la réponse est non, je t'affirme qu'Allah n'acceptera pas cette action. Quant à ton intention, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc faire une bonne œuvre, conforme à la sunna. Cet homme qui, lors de la prière de Al-Eid, la fête du sacrifice du mouton, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, a eu l'idée de sacrifier la bête avant la prière, afin d'en faire cuire une partie qu'il présenterait au prophète alayhi salatu wassalam pour lui éviter les efforts. Mais, parmi les conditions de validité de cet acte, le sacrifice de la bête doit se faire après la prière. L'homme a agi selon sa bonne intention. Il n'y a pas une intention meilleure que d'être au service du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Après la prière, le prophète, alayhi salatu wassalam, voit ces morceaux de viande cuits. Intrigué, il interroge ses compagnons et lui dit, qu'est-ce que c'est? L'homme lui dit, ô messager d'Allah, j'ai voulu te servir et j'ai eu l'idée de faire telle et telle chose. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a répondu, lahmuka lahmushan. Cette viande que tu as, n'est que la viande d'un mouton, c'est-à-dire un mouton comme les autres, mais pas celui du Eid chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Un mouton que tu as sacrifié pour manger, licite, mais il n'est pas compté chez Allah comme celui du Eid. Il ne lui a pas dit, mais comme tu as une bonne intention, alors c'est excusé pour toi. Non, c'est pas excusé. La bid'a, c'est pas accepté chez Allah. Subhanahu wa ta'ala. Cependant, mes frères, j'attire votre attention sur quelque chose d'extrêmement important. Il arrive que la personne qui a de l'engouement pour sa religion et qui des fois est animée par la sincérité agit avec maladresse. Elle prend cette information, elle rentre chez elle et elle dit à tout le monde, vous êtes tous innovateurs, vous êtes tous... Non, il y a une façon de faire. Allah Azza wa Jalla t'a facilité à toi de comprendre, tu dois leur faire amener cette compréhension. Et les gens sont différents. Certains comprennent rapidement, d'autres ont besoin de plus de temps. Et regarde la vie du prophète alayhi salatu wassalam, tu verras qu'il a su faire aimer aux gens cette parole. Et ça, il faut faire attention. Car des fois, tu présentes à la personne la vérité, n'employant pas la bonne méthode. Résultat, la personne rejette la vérité, pensant que c'est mauvais, que c'est de l'injustice, et toute autre chose encore. Cela ne veut pas dire non plus qu'il faut se taire sur le faux. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous avons deux extrêmes et le juste milieu. La première extrême est celle qui dit « Vous êtes tous égarés ». Il balance de cette façon ses paroles à des gens qui ont besoin de comprendre, que tu leur expliques. Cette personne est dans l'erreur. La deuxième extrême est celle qui dit « Je crains de taxer toutes les personnes qui sont face à moi d'égarer, donc je ne dis rien, qu'Allah nous guide tous. » Lui aussi, il est dans l'exagération et dans l'égarement. Et le juste milieu, c'est de ne pas se taire sur le faux, mais de savoir comment parler du vrai. C'est pour ça qu'il faut apprendre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit, « Inna minkum munafirin. » Il y a parmi vous des gens qui font fuir les gens. Faites attention à ne pas faire partie de ces gens-là. Wallahu al-muwaffiqu li kulli khayr. Et le Cheikh Saleh al-Fawzan, hafidhahullah, a dans son explication parlé de ces deux conditions pour voir les actions valides. La première, de n'adorer qu'Allah Azza wa Jal et de ne rien lui associer. Il existe des gens qui associent Allah Azza wa Jal et donnent à leur forme d'association des appellations pour les masquer ou pour les justifier. Et ça aussi, c'est faux. Il ne faut pas agir ainsi. Comme ceux qui commettent le polythéisme et disent, ce n'est pas du shirk, mais c'est simplement un intermédiaire que je prends entre Allah et moi. Je sais qu'Allah est le donateur, le créateur, mais j'ai juste entre lui et moi un intermédiaire. Ça revient à la même, c'est du shirk. Sauf que tu lui donnes une autre appellation. Et le deuxième fondement, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'a détaillé. L'auteur dit ensuite, وَذَلِكَ تَحْقِيقُ الشَّهَادَتَيْنِ شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَشَهَادَتِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux conditions sont en réalité la réalisation du sens des deux paroles. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. فَفِي الْأُولَى أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا إِيَّهِ وَفِي الثَّانِيَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا هُوَ رَسُولُهُ الْمُبَلِّغُ عَنْهِ. Dans la première parole, la ilaha illallah, on comprend que l'on ne doit adorer que lui seul. Et dans la deuxième, Muhammad Rasulullah, on comprend qu'il est le transmetteur du message d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit que ce qui implique de cette parole, lorsque tu dis Muhammad Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, est la chose suivante. فَعَلَيْنَا أَن نُصَدِّقَ خَبَرَهُ وَنُطِيعَ أَمْرَهُ وَقَدْ بَيَّنَ لَنَا مَا نَعْبُدُ اللَّهَ بِهِ وَنَهَانَا عَنْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ وَأَخْبَرَ أَنَّهَا ضَلَالَةٌ. Nous avons le devoir de croire en ces informations. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne comme information, à partir du moment où il est avéré que le récit qui lui est attribué est authentique, nous avons l'obligation d'y croire et l'interdiction de remettre cela en doute. Deuxièmement, l'obligation d'obéir à ses ordres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement démontré comment adorer Allah. Il nous a enseigné la prière, il nous a enseigné le dhikr, il nous a enseigné la lecture du Coran, il nous a enseigné telle et telle chose. Toutes les adorations ont été détaillées par le prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme il nous a interdit les choses nouvelles en matière de religion, pas dans le registre mondain. En matière de religion, il n'y a pas de choses nouvelles. On ne dit pas dans la religion, j'ai essayé telle adoration, c'est quelque chose de bien, tu devras essayer toi aussi, tu y trouveras plaisir. Plaisir diabolique, oui, tu le trouveras. Mais ça n'a rien à voir avec la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a laissé aucune occasion qui se présentait à lui de mettre en garde sa communauté contre les innovations sans le faire. Il disait « Wa iyyakum wa muhdathatil umur » « Prenez garde aux choses nouvelles »« Fa inna kulla muhdathatin bid'a » « Car toute chose nouvelle est une innovation » « Wa kulla bid'atin dalala » « Et toute innovation est un égarement » Alors que les innovations n'existaient même pas à son époque. Il mettait déjà en garde contre elles. Que va-t-on dire aujourd'hui? Wallahu al-musta'an. قال الله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Dans le sens du verset, mais plutôt quiconque soumet son visage à Allah, c'est une allusion à la sincérité. وهو محسن, tout en étant bienfaisant, c'est une allusion au suivi de la sunna, car c'est que de cette façon que l'on peut être bienfaisant dans la religion. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ Il aura alors sa récompense chez son Seigneur. Ce qui veut dire que celui qui n'agit pas ainsi, avec sincérité et sunna, n'a pas sa récompense chez son Seigneur. Jusqu'à la fin du verset. L'auteur nous dit كَمَا أَنَّ مَأْمُورُونَ أَلَّا نَخَافَ إِلَّا اللَّهِ وَلَا نَتَوَكَّلَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَلَا نَرْغَبَ إِلَّا إِلَى اللَّهِ وَلَا نَسْتَعِينَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَلَّا تَكُونَ عِبَادَتُنَا إِلَّا لِلَّهِ Tout comme nous avons l'ordre de ne craindre qu'Allah, de ne placer notre confiance qu'en lui, de n'éprouver du désir que pour lui, de n'implorer l'aide que de lui seul, et de consacrer toutes nos adorations à lui seul. Subhanahu wa ta'ala. فَكَذَلِكَ نَحْنُ مَأْمُورُونَ أَن نَتَّبِعَ الرَّسُولَ صلى الله عليه وسلم وَنُطِيعَهُ وَنَتَأَسَّى بِهِ فَالْحَلَالُ مَا حَلَّلَهُ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَهُ وَالدِّينُ مَا شَرَعَهُ Nous avons aussi le devoir de suivre le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, lui obéir et le prendre en guide. Le licite est ce qu'il a déclaré licite. L'illicite est ce qu'il a déclaré illicite. La religion tout entière est ce qu'il a prescrit. Subhanallah, l'islam est simple. Est-ce qu'il y a quelque chose de compliqué? Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas? Des paroles très simples. Mais pourtant, beaucoup de gens ne les appliquent pas et innovent dans la religion d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, quant aux paroles des gens, de même que les paroles des savants, ceux d'entre elles, en accord avec la parole du prophète alayhi salatu wassalam, seront acceptés. Et ceux d'entre elles, en désaccord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wasallam, seront rejetés. Il n'appartient à personne de déclarer licite ou illicite quoi que ce soit. Cela ne revient qu'à Allah Azza wa Jal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur nous dit, قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Il va maintenant nous montrer qu'il existe des choses où il est strictement interdit de les partager entre Allah et sa créature, subhanahu wa ta'ala. Il existe d'autres choses qui ne relèvent pas de l'adoration que l'on peut attribuer pour Allah azzawajal et sa créature, car elles ne relèvent pas de l'adoration. Dans le sens du verset, Allah azzawajal dit « Et s'ils étaient satisfaits de ce qu'Allah est le messager leur a donné et avait dit, Allah nous suffit, il nous donnera de sa grâce, ainsi que son messager, nous sommes désireux d'arriver à Allah. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur, rahimallah, va expliquer ce verset et nous dit « فَجَعَلَ الْإِيْتَاءَ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ » Dans ce verset, on voit que le fait de donner a été attribué à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal donne. Le prophète alayhi salatu wa sallam donne physiquement, mais l'on sait que c'est par la permission d'Allah Azza wa Jal. Et dans le contexte, Allah Azza wa Jal parle des aumônes que le prophète alayhi salatu wa sallam partageait et que les hypocrites voyaient, puis prenaient en dérision le prophète alayhi salatu wa sallam et le dénigraient. Allah Azza wa Jal a répondu à ces hypocrites que s'ils étaient satisfaits de ce que Allah et le prophète leur donnent, et s'ils avaient dit « Allah nous suffit, il nous donnera de sa grâce et son messager », c'est-à-dire ça aurait été beaucoup mieux pour eux. Donc on voit que le fait de donner a été attribué à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on trouve dans l'autre verset, comme قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le. Ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. وجعل التوكل على الله وحده. Et dans le même verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal a parlé de la confiance, il ne l'a attribué qu'à lui seul. Lorsqu'il dit وقالوا حسبنا الله. Et s'ils avaient dit Allah nous suffit. Vous voyez ici, Allah Azza wa Jal, dans le même verset, n'a plus dit Allah et son messager. Allah nous suffit. Car là, nous parlons de l'adoration, de la confiance que nous devons porter à Allah, qu'il nous est suffisant. Là, le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas sa place dans ce domaine de l'adoration. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ وَرَسُولُهُ. Il n'a pas dit ainsi que son messager. كَمَا قَالَ فِي الْآيَةِ الْأُخْرَى. Comme on retrouve dans l'autre verset. الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dans le sens du verset, surat Ali Imran. Ceux à qui les gens avaient dit, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les donc. Cela n'a fait que grandir leur foi. Et ils dirent, Allah nous suffit, et quel merveilleux garant. Et la suite du verset, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ. Ils retournèrent alors avec une grâce d'Allah et un bienfait, et aucun mal ne les a atteints. Et on parle ici d'un moment où les ennemis se sont réunis afin d'attaquer le prophète alayhi salatu wasalam. Certains sont venus et leur ont dit, ils arrivent, ils sont, craignez-les. Ils ont dit, حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah nous suffit, quel merveilleux garant. Ils sont retournés sains et saufs avec les bienfaits d'Allah. Aucun mal ne les a atteints. La confiance en Allah. Et la parole, حَسْبُنَ اللَّهُ, Allah nous suffit, elle peut être dite dans deux contextes. Dans le contexte où l'on recherche l'acquisition d'un bien, et dans le contexte où l'on veut repousser un mal que l'on redoute. Et la preuve est ce que vous voyez ici. Le premier verset où il y a cette phrase, حَسْبُنَ اللَّهُ, c'est le fait que si ces gens-là avaient dit, Allah nous suffit, il nous donnera de sa grâce. Donc ils devraient dire, Allah nous suffit pour qu'Allah leur donne une grâce. Et dans le deuxième, on voit qu'ils sont dans un contexte où ils veulent repousser quelque chose qu'ils redoutent, en l'occurrence, la nuisance de l'ennemi. Qu'est-ce qu'ils disent ? حَسْبُنَ اللَّهُ. Et tawakkul ala Allah azza wa jal, c'est justement le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala afin d'attirer un bien ou repousser un mal. Donc la parole حَسْبُنَ اللَّهُ est une parole de tawakkul, de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. ومثله قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Dans le même cadre, le verset dans le sens rapproché du verset, ô toi le prophète, Allah te suffit ainsi que ceux qui te suivent parmi les croyants. أي حسبك وحسب المؤمنين. C'est-à-dire Allah te suffit et suffit aux croyants. Car certains ont traduit ce verset avec une grande erreur. Ils ont dit, c'est-à-dire, ô prophète, Allah et les croyants te suffisent. Et ça, c'est faux. Ce n'est pas ça qui est voulu dans le verset. Ce qui est voulu dans le verset, c'est Allah te suffit à toi ainsi que les croyants. C'est ça qui est voulu. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Et c'est ce que dit le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah. Kama qal, alayhi sallahu bikafin abda, dans le sens de l'autre verset, n'est-ce pas qu'Allah suffit à son serviteur? Voyez comment Allah Azza wa Jal invite son serviteur à placer en lui seul sa confiance. N'est-ce pas qu'Allah te suffit? Thumma qal, sayu'tin Allahu min fadlihi wa rasuluh. فجعل الإيتاء لله والرسول وقدم ذكر الفضل لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وله الفضل على رسوله وعلى المؤمنين وقال إنا إلى الله راغبون فجعل الرغبة إلى الله وحده كما في قوله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Toujours dans le verset, Allah Azza wa Jalla nous dit que s'ils avaient dit aussi, Allah nous donnera de ses grâces, le messager aussi. On voit que l'action de donner a été attribuée à Allah Azza wa Jal et au messager sallallahu alayhi wa sallam qui peut donner par la permission d'Allah Azza wa Jal. Il s'agit ici de donner des aumônes notamment. Mais on remarque que lorsque l'on a parlé de la grâce, le mot fadlihi, sa grâce, a été rattaché à Allah uniquement. Quant à l'action de donner, elle a été attribuée à Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez la perfection du livre d'Allah. Oui, le messager donne, mais la grâce est à Allah seul. Subhanahu wa ta'ala. L'auteur nous dit, car la grâce est dans la main d'Allah. Il en fait don à qui il veut et Allah est le détenteur de l'énorme grâce. Il a aussi une grâce sur son messager ainsi que les croyants. Et ensuite, inna ilallahi raghibun, toujours dans le verset, nous sommes désireux d'aller vers Allah. Allah Azza wa Jalla a montré que ar-raghba, c'est une adoration, c'est le désir. L'espoir et le désir, l'attachement à Allah Azza wa Jalla. Là, on ne l'a attribué qu'à Allah seul. Surtout qu'on a dit « إِلَى اللَّهِ رَاغِبٌ تَقْدِيمُ مَا حَقُّهُ التَّأْخِيرُ يُفِيدُ الْحَصْرِ أي « إِلَى اللَّهِ وَحْدَهُ » لأن الأصل أن يقال « رَاغِبُونَ إِلَى اللَّهِ » Nous sommes, si je traduis littéralement, vers Allah désireux. C'est comme ça que l'on retrouve la forme de la phrase dans la langue arabe. Et on avait déjà dit plusieurs fois que quand on retrouve dans des textes, dans la phrase, que ce qui devait être plus loin est finalement mis devant, on entend par là l'exclusivité. C'est-à-dire qu'à la base, on dirait, nous sommes désireux de se rapprocher d'Allah, n'est-ce pas? Mais si on dit, nous sommes envers Allah désireux, cela montre l'exclusivité de notre désir envers Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le sens des versets, lorsque tu te libères, fatigue-toi, fais des efforts dans l'adoration, et envers ton Seigneur, sois désireux. Wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-ibn Abbas, إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله والقرآن يدل على مثل هذا في غير موضع. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au noble compagnon, son cousin paternel, Abdullah ibn Abbas, qu'Allah l'agré, lui et son père, les deux compagnons, lorsque tu demandes, demande à Allah. Lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide d'Allah. Regardez ce qu'il inculque aux jeunes. Le tawhid, sallallahu alayhi wa sallam, et ça on le retrouve dans énormément de passages. فجعل العبادة والخشية والتقوى لله وجعل الطاعة والمحبة لله ورسوله. Allah Azza wa Jal a fait de l'adoration, de la crainte, de la piété des choses réservées exclusivement à Allah. Et il a fait de l'obéissance et de l'amour des choses destinées à Allah Azza wa Jal et à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que quand on dit qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'agit pas de l'adorer. Il ne s'agit pas de l'amour de qui est une adoration. Donc l'amour pour le prophète alayhi salatu wa sallam prend son sens religieux. N'est-ce pas? Et quand on dit l'amour d'Allah Azza wa Jal, ça prend aussi son sens propre, qui est de l'adorer. Subhanahu wa ta'ala. Kama qala, kama fi qawli Nuhin alayhi salam, an i'budu Allah wa attaquuhu wa ati'un. Nuh alayhi salam a dit à son peuple, adorez Allah. Soyez envers lui pieux. C'est-à-dire en l'obéissant, en délaissant ses interdits. Et ensuite il dit, et obéissez-moi. Donc quand il y a des choses qui sont réservées à Allah, il les a rattachées à Allah, alayhi salam. Adorez Allah. Soyez pieux envers Allah. Quand il y a des choses qu'il peut s'attribuer, il le fait. Obéissez-moi. Car en réalité, il ne fait que transmettre les ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Wa qawlih. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَى اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. Dans le sens rapproché du verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et quiconque obéit à Allah et à son messager, le craint, c'est-à-dire Allah, azza wa jal, craint Allah, et fait preuve de piété envers lui, ceux-là sont les vainqueurs. Ceux qui ont réussi. Voici la vraie réussite. La vraie réussite, ce n'est pas une réussite mondaine. C'est la réussite avec Allah, Azza wa Jal. Et l'on constate dans cette époque que nous vivons, que beaucoup de gens ont rattaché la réussite à des jeux et des amusements, à des distractions et des futilités. Oubliant que la vraie réussite, c'est d'arriver chez Allah le jour dernier et de le trouver pleinement satisfait de toi. C'est ça la vraie réussite. Allah Azza wa Jalla a dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyama. Mais vous ne serez pleinement rétribué que le jour de la résurrection. » فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ. Quiconque sera alors écarté du feu. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ. Et introduit au paradis. فَقَدْ فَازَ. Il aura certes réussi. Tout de suite après. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse. La réussite n'est pas dans la jouissance trompeuse. La réussite est chez Allah subhanahu wa ta'ala. نَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ. إنه على ذلك قدير. L'auteur dit وامثال ذلك. Et d'autres versets semblables dans le Coran. فالرسل أمروا بعبادته وحده والرغبة إليه والتوكل عليه والطاعة لهم فأضل الشيطان النصارى وأشباههم فأشركوا بالله وعصوا الرسول فَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَمْ. L'auteur nous dit que les messagers ont ordonné aux gens d'adorer Allah seul. Ça, c'est le message de tous les messagers, mes frères, de tous les prophètes. Ils ont tous dit « يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرَهُ. » Ô mon peuple, adorez Allah. Nulle autre divinité que lui ne mérite vos adorations. Tous les messagers ont appelé à cela. Ils ne sont pas venus appeler à la dunya, ils ne sont pas venus appeler à la politique, ils ne sont pas venus appeler au sectarisme, Ils ne sont pas venus appeler aux intérêts mondains. Ils ne sont pas venus appeler à tout cela. Ils n'ont fait qu'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Et le noble cheikh, le grand savant Rabi ibn Hadi al-Madkhali, qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge sa vie en bonne santé et lui récompense pour tout le bien qu'il a apporté à la communauté, a un écrit qu'il a intitulé « Manhajul Anbiya'i fi da'wati ilallah » Fihi al-hikmatu wal-aql, la méthodologie des prophètes dans l'appel à Allah contient la sagesse et la raison. Et il a cité un très grand nombre de versets du livre d'Allah Azza wa Jal dans les histoires des prophètes pour montrer qu'ils n'ont jamais appelé à tous ces sectarismes, à tout ce que l'on entend aujourd'hui, et qu'ils n'ont fait qu'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah. Ce n'était que leur seul et unique but. Et ce livre a été, sa propagation de ce livre a été encouragée par le Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, qui a apporté ses annotations en introduction de cet écrit. Il n'est pas traduit en langue française, à ma connaissance. Wallahu a'lam. Tous les messagers ont appelé à cela. Ils ont appelé à adorer Allah uniquement. Ils ont appelé à placer confiance en Allah et à lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Mais le shaytan, le diable, a égaré al-Nasara, les chrétiens parmi les gens du livre, et leurs similaires, qui ont associé à Allah Azza wa Jal et désobéi à leurs messagers. Ils ont désobéi au prophète Isa alayhi salam, et comme Allah Azza wa Jal nous l'a dit, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins en seigneur en dehors d'Allah. De même, ils ont agi envers Al-Masih ibn Maryam, le prophète Isa, alayhi salam, c'est-à-dire en les adorant en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'auteur a dit, « Faja'alu yarrabuna ilayhim, wa yatawakkaluna alayhim, wa yas'alunahum ma'a ma'asiyatihim li amrihim, wa mukhalafatihim li sunnatihim. » Et ça, c'est ce qui est vraiment étonnant. Comme nous le dit l'auteur, ces gens-là les ont adorés, ils ont placé leur confiance en eux, tout en désobéissant à leur ordre. Des messagers leur sont envoyés. Plus tard, ils vont les adorer en dehors d'Allah. Et en plus de cela, ils vont leur désobéir. Mais de quel amour parlez-vous? Ils disent, on les aime, c'est pour cela que nous avons telle et telle action, ce qui sont des adorations pour eux. Et pourquoi alors vous leur désobéissez? Donc ils se contredisent. Ils s'affilient à Isa alayhi salam alors qu'ils lui désobéissent. Wa hada Allahu al-mu'minina al-mukhlisin lillah ahla as-sirat al-mustaqim alladhina 'arafu al-haqqa wattaba'uhu falam yakunu min al-maghdubi 'alayhim wala ad-dallin. Et Allah subhanahu wa ta'ala, regardez la beauté avec laquelle il conclut son livre. Et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé les croyants sincères, les gens du droit chemin, ceux qui ont connu la vérité et qui l'ont suivi, ceux qui ne faisaient pas partie des gens ayant encouru la colère d'Allah contre eux, non plus des égarés. فَأَخْلَصُ دِينَهُمْ لِلَّهِ. Ces gens-là ont voué exclusivement toute leur religion à Allah. وَأَسْلَمُ وُجُوهَهُمْ لِلَّهِ. Ils ont soumis leur visage à Allah. Wa anabu ila rabbihim. Ils sont revenus repentants à leur Seigneur. Wa ahabbu wa rajawhu wa khafu wa sa'alu wa raghibu ilay wa fawwadu umurahum ilay wa tawakkalu alay wa ata'u rusula wa 'azzaruhum wa waqqaruhum wa ahabbuhum wa walawhum wattaba'uhum. وَاقْتَفَوْا آثَارَهُمْ وَاهْتَدَوْا بِمَنَارِهِمْ. Allahu Akbar. L'auteur rahimahullah nous dit, ces gens-là ont soumis leur visage à Allah. Ils sont venus repentants à leur Seigneur, l'ont aimé, espéré, craint, sollicité. Ils ont eu pour lui l'espoir et le désir. Ils ont abandonné toutes leurs affaires à lui seul. C'est en lui qu'ils ont placé leur confiance. Ils ont alors obéi à ses messagers, auxquels ils ont porté la plus grande considération et respect. Ils les ont aimés, ils les ont pris en alliés, les ont suivis et ont imité leurs actions et ont suivi leurs guidés. وذلك هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا إلا إياه. Voici la religion de l'islam. Ce que vous venez d'entendre, c'est la religion de l'islam par laquelle Allah Azza wa Jal a envoyé les premiers jusqu'au dernier parmi les messagers. Et cette religion-là, qui est l'islam, c'est la seule religion acceptée par Allah. Toute autre religion, toute autre pratique, toute autre croyance est vouée au feu. Et elle n'est pas acceptée par Allah. Subhanahu wa ta'ala, Allah a dit dans le Coran, « Inna ad-din 'inda Allah al-Islam ». Certes, la religion chez Allah est l'islam. Et dans l'autre verset, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque recherche une religion autre que celle de l'islam, elle ne lui sera pas acceptée. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. وَهُوَ حَقِيقَةُ الْعِبَادَةِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Et c'est la réalité de l'adoration du Seigneur des mondes. C'est ça l'islam. L'islam, la réalité de l'islam, la base de l'islam, l'âme de l'islam, l'essence de l'islam, c'est le tawhid. C'est d'adorer Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Celui qui l'applique est un musulman. Celui qui ne l'applique pas n'est pas un musulman, c'est un mushrik, un polythéiste. L'auteur dit, فَنَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمُ أَنْ يُثَبِّتَنَا عَلَيْهِ. Nous implorons Allah l'immense de nous y raffermir. Amin. Ici, il est écrit وَيُكْمِلَهُ لَنَا, mais le Cheikh Abdelrazzaq a dit وَيُكَمِّلَنَا بِهِ هُوَ الْأَقْرَبِ. لَنَا l'islam a kamil. Nous implorons Allah de nous parfaire par l'islam. وَيُمِيتَنَا عَلَيْهِ, et de nous faire mourir sur cet islam. وَسَائِرَ إِخْوَانِنَا الْمُسْلِمِينَ, ainsi que tous nos frères parmi les musulmans. Walhamdulillahi wahda, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de récompenser l'auteur, l'imam, cette montagne de science, cet homme pieux et vertueux, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, pour ce bien qu'il a apporté à la communauté à travers ses écrits et son appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous n'oublions pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour le Cheikh Saleh al-Fawzan hafidhahullah, qui a commenté cet écrit, et de récompenser aussi tous les savants de la sunna de manière générale. Et on demande à Allah d'accepter de nous ces quelques assises qui sont exactement au nombre de 33 que nous avons passé à étudier al-Ubudiyya. Nas'alullah azza wa jal بهذا العمل الصالح أن يقربنا إليه وأن يزكي به نفوسنا وأن يطهر به قلوبنا ويشرح به صدورنا ويغفر به ذنوبنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا, اللهم فقهنا في الدين, اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص والقبول, اللهم يسر لنا أمورنا كلها, اللهم ارزقنا يا رزاق ووسع علينا يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.